France Inter. Le 7-9.
Il est 7h45, le débat écho du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous échangez ce matin sur la pauvreté et les inégalités. Cette semaine, l'INSEE a en effet publié un tableau très différent de ce qu'on aurait pu imaginer. Le taux de pauvreté et les écarts de revenus n'ont pas augmenté pendant la crise du Covid, alors que nous avons tous en tête ces images des longues files devant les banques alimentaires et ce chiffre choc d'1 million de pauvres en plus qui avait été avancé pendant l'épidémie. Première question toute simple, messieurs, avez-vous été surpris par ces chiffres de l'INSEE et vous semble-t-il crédible, Dominique ?
Alors c'est vrai que ils apparaissent contre-intuitifs, voilà. Hein, puisqu'il y a eu une récession de 8%, donc c'est quelque chose d'inédit, et quand on constate les chiffres, évidemment, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que j'ai été surpris ? Pas complètement, parce que l'État, les politiques publiques ont pris la perte d'une manière générale, ont compensé, et il y a eu beaucoup dans tous les sens d'aide publique dans tous les sens. Il faut quand même dire, pour ouvrir ce débat, me semble-t-il, un point qui est les chiffres ne disent pas tout. Mmh. Non, mais il faut vraiment insister là-dessus. Sur les questions notamment de pauvreté, les chiffres ne disent qu'une partie de la réalité. Ce sont les situations individuelles qui comptent. C'est vrai que si vous dites à quelqu'un qui vit avec 1098 € par mois, ah ben non, vous êtes pauvre parce que vous êtes du mauvais côté du taux de pauvreté, mais que si votre revenu est de 1104 €, vous n'êtes plus du côté, ça ne veut rien dire. Et les personnes dont les revenus ont baissé, il faut faire attention et, encore une fois, saluer le travail des associations et de toutes les collectivités publiques qui font un boulot formidable sur ces questions-là. Je n'ai pas été surpris parce que l'État a mis le quoi qu'il en coûte à payer, d'une certaine manière. C'est-à-dire il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle, et je le mets entre guillemets, il faut le remarquer. Évidemment, il y a un certain nombre de limites, et on va en parler sans
tout
doute,
suite,
il y a la question des étudiants. Donnons le factuel peut-être d'abord. Les deux informations, c'est le taux de pauvreté est resté le même entre 2019 et 2020, à 14,6%, 9,3 millions de personnes. Première information, et deuxième information donnée par l'INSEE, qui est que les inégalités entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches n'ont pas bougé. L'INSEE considère, a publié énormément de documents, que ces informations, malgré les limites, sont solides.
Thomas Piketty, comment avez-vous reçu ces chiffres ? Les avez-vous reçus comme une bonne nouvelle ?
Non. Première chose, 14,6%, donc 9,3 millions de personnes, c'est absolument considérable. D'ailleurs, très majoritairement des femmes, hein, c'est près de 5 millions de femmes, 4,3 millions d'hommes. Si on pourrait retirer les enfants, qui sont autant des garçons que des filles, l'écart serait encore plus considérable. C'est beaucoup de métiers extrêmement mal payés, des métiers du soin, des métiers de nettoyage, la grande distribution où les personnes gagnent 600, 700, 800, 900 avec des horaires très éclatés du matin au soir pour lesquels on ne fait rien, se satisfaire du fait que ce taux de pauvreté est constant à 14,6%, il n'y a vraiment pas de quoi.
On redoutait le pire, alors, hein, Thomas Piketty.
Maintenant, venons-en à la question.
Il y a un million de nouveaux pauvres.
Oui, mais alors attendez. Alors maintenant, ce que je voulais dire, c'est que même si on était sûr que le taux de pauvreté était resté à 14,6%, il n'y aurait pas de quoi se satisfaire. Alors maintenant, venons-en à l'analyse de la façon dont ce chiffre a été calculé. D'abord, il faut rappeler que même du point de vue du calcul de l'INSEE, le même taux de pauvreté était de 14,1% en 2017, donc par rapport à 2017 c'est une aggravation. Il était de 12,5% au début des années 2000 avant la crise de 2008, donc c'est le plus élevé mesuré par l'INSEE depuis 20 ans. Donc ça c'est une mise en perspective qui est quand même utile. Deuxième chose, quels sont les éléments dont dispose l'INSEE pour conclure à une stabilité absolue du taux de pauvreté à 14,6% entre 2019 et 2020? Alors, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, l'INSEE n'observe que les ménages ordinaires. C'est-à-dire que par définition, c'est pas seulement les personnes sans domicile, mais c'est aussi les étudiants, mais c'est aussi toutes les personnes, si vous voulez, qui habitent temporairement chez un ami, qui sont pas forcément à la rue, mais qui ne sont pas bien pris, qui peuvent pas être pris en compte par l'INSEE. En fait, beaucoup de personnes en situation de très grande précarité, parce que l'INSEE a uniquement les déclarations de revenus. Deuxièmement, l'INSEE n'a toujours pas les déclarations de revenus de 2020. C'est-à-dire que tous ces calculs ont été faits à partir des déclarations de revenus, d'ailleurs même pas de 2019, de 2018, qui ont été mises à jour, simulées, comme dit l'INSEE, à partir de l'évolution de
choses. La photo est floue. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Si vous voulez, c'est pas de la faute de l'INSEE. Alors, on pourrait dire c'est parce qu'en fait c'est l'administration fiscale, l'administration fiscale qui a toujours pas transmis les déclarations de 2020. Ce qui est quand même un petit peu étrange parce que vous voyez, quand il s'agit de faire payer l'impôt à la source, là on a l'information tous les mois, tous les trimestres. Mais quand il s'agit de mesurer la pauvreté,
l'image de l'INSEE est fausse. Elle est trouble.
Le dernier point.
Imparfaite, imprécise, c'est quoi? Donnez-nous un mot.
Je vous réponds, Nicolas. Moi, je pense qu'en fait, on ne sait pas encore bien mesurer, malheureusement, avec ces sources, l'évolution de taux de pauvreté, mais peut-être le seul indicateur fiable, qui, à mon avis, va dans l'autre sens, c'est quand même que le nombre de personnes qui ont bénéficié de l'aide alimentaire, les volumes d'aide alimentaire, ça, c'est assez bien mesuré. Ça a augmenté de 7% pour le nombre de personnes, de 11% pour les volumes. Ça, il y a eu une étude de l'INSEE et de l'Adresse en juillet qui l'a confirmé. C'est quand même très difficile de comprendre comment un taux de pauvreté peut être rigoureusement stable à 14,6% quand vous augmentez 10% les volumes d'aide alimentaire. Il y a quand même un problème.
Je vais défendre le travail de l'INSEE parce que s'il y a une chose dont je suis absolument certain, que c'est si ce taux avait augmenté.
L'INSEE est très prudent d'ailleurs, vous savez, si Dominique, taux, plus que vous.
Si ce taux avait augmenté, je n'ai aucun doute que les statistiques apparaîtraient crédibles. Et donc, le fait que la stabilité soit contre-intuitive, mais qu'elle soit très argumentée, vous avez le directeur général de l'INSEE qui a publié un long poste de blog, c'est absolument rarissime. Manifestement, les statisticiens
très l'INSEE... Très prudent ce poste de blog,
oui,
Dominique.
Mais qui conclut que, malgré les réserves méthodologiques, notamment et la question des étudiants, sur lequel on peut dire un instant, malgré ça, la conclusion est considérée comme solide, fiable. Les mots sont clairs. Donc ça veut dire que les statisticiens ont été assez énervés par le bruit général qu'il y a eu sur le fameux...
Il dit pas solide et fiable, il dit elle est digne d'intérêt et elle est digne d'intérêt.
Non, il dit fiable.
Attention, il a pas les données sur les revenus de 2020. C'est un petit détail quand même, Dominique, qui vous a échappé. C'est-à-dire qu'il utilise uniquement les données de 2019-2018 qui mettent à jour avec un modèle de simulation, de régression.
Mais je veux bien, Thomas, qu'ici dans ce studio...
Si vous voulez, il n'a pas les données, c'est pas de sa faute.
Je veux bien que ici dans ce studio, nous disions le travail fait par l'INSEE est complètement flou, aberrant, généralement ces données...
Mais c'est pas de leur faute s'ils n'ont pas les données de 2020.
Mais ils ont utilisé ce qu'ils appellent des micro-simulations qui, les années précédentes, se sont toutes révélées, je crois, plutôt fiables.
Alors, la question, un mot sur... Allez-y, Dominique.
Sauf que l'année 2020 est très particulière, Dominique. Vous voyez, si vous n'avez pas les vraies données, c'est quand même compliqué.
Et ils considèrent
que la situation des étudiants, dont une partie des étudiants sont pris en compte, ils considèrent que, malgré ça, c'est écrit noir sur blanc, ça ne remet pas en cause le diagnostic d'ensemble. Moi, je trouve qu'on pourrait au moins, évidemment, considérer que le taux de pauvreté est élevé, que la pauvreté est, par définition, toujours trop élevée dans un pays, mais on pourrait au moins ensemble se dire, c'est plutôt une bonne nouvelle que le taux n'ait pas explosé. Imaginez que le taux avait été à 17 ou 18%, je crois qu'on nous aurait entendu différemment.
Messieurs, vous avez multiplié les précautions, les réserves, mais qu'est-ce que ces chiffres disent malgré tout de notre modèle social, de nos amortisseurs sociaux? Thomas Piketty, ces amortisseurs sont-ils robustes?
Alors, écoutez, évidemment, la situation aurait été pire
si on avait fermé
tout le monde chez soi, en n'ayant aucune aide financière.
On ne serait même pas en train de débattre.
À ce niveau-là, on est
d'accord. Explorons tout de même le sujet.
Je voudrais quand même rappeler qu'au moment de la crise du Covid, on a eu des grands discours avec des larmes dans les yeux, disant les premiers de corvée, quand même, il va falloir faire quelque chose, etc. Moi, ce que je constate, c'est que si on regarde donc typiquement ces femmes, parce que ce sont beaucoup des métiers féminins qui gagnent 700 euros, 800 euros, 900 euros, qui sont typiquement dans le seuil de pauvreté, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants. C'est-à-dire le taux de pauvreté pour les enfants est de plus de 20% contre 14%. Pour la population, c'est beaucoup de mères avec des enfants, aussi des pères avec des enfants, se satisfaire de cette situation. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de mesures, d'ailleurs, qui ont été proposées à l'Assemblée nationale pour améliorer les salaires sur les personnes qui avaient des horaires extrêmement élastiques, qui travaillaient très tôt le matin, très tard le soir, avoir un véritable statut, transformer ces emplois en CDI, améliorer ces bas salaires. Enfin, vous en parlerez tout à l'heure à 8h20 avec vos invités. Enfin, il y a plein de mesures qui pourraient être prises, qui n'ont pas été prises dans ce pays
pour
l'instant.
Une question, Dominique. Cette semaine, en plus de ce tableau de l'INSEE, on a vu le CAC 40 battre des records à la hausse. On sait par ailleurs que les ménages les plus aisés ont pu épargner parfois massivement pendant la crise du Covid. Si, à en croire l'INSEE, les pauvres ne se sont pas appauvris, est-ce que les riches se sont enrichis pendant
D'abord, je réponds quand même. Je vais y répondre évidemment. Un mot quand même. Ça dit quelque... La façon dont nous réagissons collectivement sur ces affaires-là montre quand même notre capacité à absolument vouloir systématiquement tout voir en noir. Et alors, ça a une vertu, c'est que ça met en mouvement, naturellement. Et que si un certain nombre d'associations ont alerté sur ces sujets-là, ça a forcé les pouvoirs publics à s'intéresser, à faire du ciblage sur les aides. Donc ça, il y a un côté positif sur les alertes. Mais quand même notre capacité à tout voir comme une dégradation sur les inégalités. L'INSEE, encore une fois, ou l'Observatoire de la pauvreté, dit qu'il n'y a pas eu d'aggravation globalement depuis 15 ans.
À l'autre bout du spectre social.
Donc votre question, c'est...
Pauvres ne se sont pas appauvris, avec toutes les réserves que vous avez faites, est-ce que les riches se sont enrichis pendant la même crise?
Ce que montrent les données, c'est que l'écart entre les 10%, les plus pauvres 10%, les plus riches les 20%, les plus riches les 20%, ne s'est pas écarté. Donc il n'y a pas d'aggravation spectaculaire en 2020 d'après ces statistiques de l'écart de revenus. Évidemment, l'effet, et vous mentionnez le CAC 40, l'effet inverse est produit sur les CAC 40, mais ça n'a pas grand-chose à voir, sauf pour les entrepreneurs qui détiennent les actions de leurs entreprises, et donc c'est le capital qui augmente.
Alors, il y a eu évidemment des versements de dividendes au sommet de la pyramide qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, notamment après la flat tax de 2018, et aussi des patrimoines, parce que l'INSEE ne parle pas des inégalités de patrimoine qui sont considérables en France, qui sont très importants face à une crise comme le Covid et dans la vie en général, parce que c'est ça qui vous donne une protection, qui vous donne un logement. Il y en a même qui partent dans des résidences secondaires. Donc cette question des inégalités de patrimoine, je rappelle qu'en France, les 50% les plus pauvres possèdent à peine 6% du patrimoine total. Alors c'était 2% au 19e siècle. C'est une amélioration. Pour 50% de la population, ça fait quand même pas beaucoup.
Mais l'écart entre les 10% les plus pauvres et les plus riches n'a pas bougé.
Les
deux sont importants, Dominique. Alors sur les revenus, là je parlais des très hauts dividendes, ce sont des revenus. Alors quand l'INSEE regarde juste les 20% les plus riches par rapport aux 20% les plus hauts, forcément, on ne voit pas les milliardaires et les dividendes. Ceci dit, je veux quand même vous rappeler, Dominique, que même sur cette statistique donnée par l'INSEE, il donne un ratio donc de 4,4, c'est-à-dire que les 20% les plus riches en moyenne en niveau de vie ont 4,4 fois le niveau des 20% les plus pauvres, qui d'après l'INSEE était le même l'an dernier. Par contre, au début des années 2000, toujours d'après l'INSEE, avant la crise de 2008, on était plutôt vers 4,1. Donc, quand vous dites que ça n'a pas bougé depuis 15 ans, ce n'est pas exactement vrai. Regardez le graphique de l'INSEE, c'est quand même passé de 4 à 4,4. De même que le taux de pauvreté est passé de 12,5 à 14,6. Donc, il ne s'agit pas de tout noircir, Dominique, mais juste de ne pas se satisfaire.
Je suis certain que si on interrogeait les Français, on leur dit, vous avez donné ce chiffre de 4,4 d'écart entre les 20-20, on interrogerait les Français avec le bruit général, ils diraient, non mais c'est quoi, c'est 10, c'est 20, c'est pas 4,4, c'est 10, c'est 20, c'est 30.
Mais parce que 20%, ça fait une très grande partie de la population.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une redistribution qui est absolument massive en France. Est-ce qu'on en est d'accord?
Dans quel sens, exactement?
Est-ce qu'on en est d'accord? Il y a des filets sociaux qui sont considérables, qui peuvent toujours être améliorés, mais dont il faut reconnaître qu'ils sont absolument massifs en France.
Vous le reconnaissez, Thomas?
Mais si vous comparez par rapport au niveau d'inégalité aux États-Unis ou en Afrique du Sud ou au Brésil, vous avez raison. Mais si vous voulez, les gens en France et en Europe savent très bien que l'Europe est moins inégalitaire que ces pays-là.
Je ne pense pas que ce soit vraiment pertinent.
Je vous dis, les deux choses sont vraies à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, on a un modèle qui est plus égalitaire que ces autres pays, et en même temps, on reste extraordinairement inégalitaire, ce qui est non seulement injuste, mais très inefficace économiquement, parce qu'on a besoin de participation à la vie économique. Tous ceux qui ne possèdent rien ne peuvent pas participer.
Thomas, Dominique va avoir la conclusion tout de suite.
Non, mais juste avec un sourire, c'est que je n'ai jamais considéré que les États-Unis étaient un modèle. Parfois, il vous paraît que les États-Unis sont davantage un modèle sur les grandes politiques de Joe Biden, et nous avons un petit écart là-dessus.
J'essaie de comparer avec
Trump, le modèle. Je regarde la façon dont la France fonctionne.
Merci, messieurs. France Inter.